D'abord, nous allons retrouver Mélanie Bertrand en direct de Florence dans le Gers, parce que d'ici quelques minutes, Mélanie, le maire de la ville, le maire de Florence, va s'exprimer.
Exactement, peut-être pour donner les dernières consignes avant les obsèques. Demain, vous le savez, à 14h30, ici à Florence, c'est toute la commune qui s'apprête à enterrer Liana. Au funérarium de la ville, beaucoup, beaucoup de fleurs ont été reçues. Et les habitants que nous croisons dans les rues de Florence nous disent à quel point ils ont été évidemment émus, marqués par ce drame qui a frappé leur commune il y a maintenant 15 jours. Alors la cérémonie, elle va débuter demain à 14h30 au cimetière de Florence avec la famille de l'adolescente qui est invitée, ses proches, à prendre la parole. Au même moment, 14h30, les différentes mairies du Gers ici sont invitées à aussi faire un moment de recueillement, si elles le souhaitent, à mettre leur drapeau en berne. Il y aura ensuite évidemment le moment de l'inhumation du corps de Liana qui se fera dans la plus stricte intimité. Beaucoup d'habitants nous ont dit qu'ils allaient respecter la volonté de la famille de ne pas se rendre aux obsèques, de les laisser vraiment entre eux. C'est le cas d'un papa à qui on a parlé ce matin. Son fils est scolarisé dans le même collège que Liana. Trop douloureux pour lui de se rendre au cimetière, mais il a fait envoyer des fleurs et c'est sans doute là-dessus que le maire de Florence va communiquer d'ici quelques minutes. Il l'a dit, ce qu'il souhaite, ce sont des obsèques dignes à la hauteur de la volonté de la famille de Liana.
Mélanie Bertrand à Florence avec Agathe Pichon pour BFM TV. Justement, le nom de Jérôme Barella est en tête, mais c'est sa famille que l'on découvre aussi, pas dans les meilleures circonstances, avec vous François Gapillan, parce que plusieurs membres sont mis en cause pour des faits similaires.
En effet, bonsoir à tous. D'abord, un rappel concernant Jérôme Barella lui-même. Il se trouve, où s'est trouvé, vous le voyez ici sur cet arbre généalogique, au cœur de neuf procédures depuis près de 10 ans, cela inclut notamment l'affaire Liana, mais aussi des plaintes en cours. Le grand frère de Jérôme Barella, qui se trouve ici, est lui aussi mis en cause. Yannick Barella, 44 ans aujourd'hui. En début de semaine, il a passé 48 heures en garde à vue avant d'être mis en examen pour des viols conjugaux sur deux anciennes compagnes, dont l'une avait 17 ans au moment des premiers faits qu'elle dénonce. Yannick Barella a été remis en liberté depuis sous contrôle judiciaire, décision dont le parquet a fait appel. Yannick Barella conteste les accusations portées contre lui. Et puis, il y a le père de Jérôme et Yannick, Joël Barella, 71 ans aujourd'hui, lui aussi accusé de viol par deux de ses anciennes petites filles par alliance, les deux petites filles de son ancienne compagne, Maëva et Priscilla, que vous voyez tout en bas à droite. Aujourd'hui, elles sont adultes, elles ont déposé plainte pour des viols et des attouchements lorsqu'elles étaient enfants, ce que Joël Barella a toujours contesté. Dans l'une des procédures, il avait bénéficié d'un non-lieu, pour l'autre d'un classement sans suite, faute d'éléments matériels. Mais le parquet de Béziers a annoncé hier qu'il allait rouvrir l'enquête sur les faits dénoncés par Maëva.
Justement, vous venez de parler de Maëva et Priscilla, François Gapillan. Elles ont témoigné toutes les deux sur BFM TV. Dernier témoignage en date, justement, celui de Priscilla.
En fait, il s'avère que, soi-disant, une fois, sans le faire exprès, je lui aurais touché le sexe. Et du coup, ça l'a excité. Et du coup, ça a commencé à se frotter à moi. À part ma maman, mon beau-père et la maman de ma sœur, personne ne m'a cru. J'étais une menteuse. Même mon papa, j'étais une menteuse. Mais j'aurais jamais menti sur un truc aussi gros. Il a détruit ma vie.
Après, Priscilla, dont le visage est flouté à sa demande. Et puis, il y a le témoignage de Maëva, qui était ce matin.
Sœur.
Oui, en direct sur BFM TV.
J'avais confiance en Joël et j'étais dans une caravane, donc moi sur un lit de place, et de l'autre côté de la caravane, il y avait un lit, une place où Joël en général se mettait. Et une nuit, il s'est glissé en fait dans le même lit que moi. Donc il pensait que j'étais endormie, sauf que je ne l'étais pas. Il ne me disait rien, il se frottait à moi et il n'y avait pas de parole, il n'y avait rien. Et puis au niveau de la piscine, pareil, pour lui c'était tellement normal, tellement banal qu'il ne disait rien. Donc à partir du moment où ça s'est passé dans la piscine, j'avais un minimum de conscience et je commençais à réaliser que c'était grave. À la fois je suis contente parce qu'on va pouvoir être enfin entendue, enfin pouvoir être reconnue comme victime, même s'il n'y a pas forcément de suite. Mais rien que le fait d'être reconnue comme victime et être entendue, ça me fait énormément plaisir, ça me fait du bien. J'ai une vague aussi de tristesse parce que du coup, ça me fait revenir en arrière, me remémorer les faits. Et j'ai une part d'excitation parce que je me dis que toutes les personnes en fait qui ne parlent pas ou les personnes qui ont dû subir ça et qui malheureusement aujourd'hui sont décédées, vont aussi pouvoir peut-être avoir justice au fur et à mesure du temps.
Ce sont deux témoignages forts, Mathias Tesson, et ce que l'on retient, c'est qu'à aucun moment la famille ne les a soutenus.
Oui, notamment pour l'affaire de Priscilla, donc il y a 26 ans aujourd'hui, qui en avait 13 au moment des faits. À l'époque, c'était une fillette et elle avait dénoncé effectivement des faits de viol de la part de son grand-père par alliance. Et comme c'est le cas à chaque fois dans des procédures de cet ordre-là, eh bien les proches avaient été entendus, la famille avait été entendue, et les mots prononcés pendant les auditions pour qualifier cette fillette qui n'avait que 13 ans, on va le rappeler, à l'époque, étaient particulièrement durs venant de membres de sa propre famille. Il avait été dit d'elle qu'elle était une menteuse, une vicieuse, une charmeuse, qu'elle aimait attirer l'attention, que c'était une menteuse qui se complaisait dans des conflits avec des camarades et qui créait des tensions. Le grand-père, lui aussi, avait été interrogé. Il avait parlé d'une aguicheuse. Rendez-vous compte de ce terme pour qualifier le comportement d'une fillette de 13 ans. Elle avait déposé plainte pour ces faits-là. Une information judiciaire avait été ouverte, mais un non-lieu avait finalement été prononcé. De son côté, Maëva, elle aussi, avait déposé plainte. Là, la plainte avait été classée sans suite. À l'aune des derniers événements, le parquet de Béziers a décidé de rouvrir cette plainte de Maëva. Elle, c'était pour des faits d'agression sexuelle. Hélas, pour le non-lieu qui avait été ordonné pour les faits qui concernent Priscilla, comme c'était une information judiciaire, on ne peut pas rouvrir une information judiciaire comme cela. Il faut un nouvel élément, c'est la seule manière de pouvoir relancer l'enquête.
Gabriel Catella, bonsoir. Vous êtes député LFI du Val-d'Oise et vous êtes vice-président de la commission d'enquête sur l'inceste parental. Donc dans cette famille, on a bien sûr Jérôme Barella, on a son frère qui est accusé de viol, on a le père également accusé, Joël Barella, accusé d'avoir violé ses petites filles par alliance. On a donc une famille totalement incestueuse.
On a effectivement une famille qui montre le caractère systémique de ces violences sexuelles faites aux enfants et qui nous montre ce qu'on dit depuis des jours, c'est-à-dire que sur les 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles, plus de la moitié, c'est au sein de la famille. Et la famille est finalement l'endroit le moins sécurisant pour les enfants. Moi, je pense qu'il y a l'éléphant au milieu de la pièce, et peut-être ce qui va être découvert ensuite, c'est que Jérôme Barella agressait sûrement ses propres filles, puisque les premiers corps disponibles autour de lui, ce sont ses enfants. Et on découvrira peut-être ensuite qu'il a été lui-même victime de violences sexuelles dans son enfance,
familiale,
puisque
la modèle,
son père était un agresseur. Et ça aussi, c'est démontré que à la fois les personnes qui ont été victimes dans l'enfance sont davantage victimes à l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle la revictimation, et elles reproduisent aussi un certain nombre de faits. Avec... Et moi, j'ai l'impression en fait de lire le livre de Dorothée Ducy, Anthropologie de l'inceste. C'est ce que montre cette famille.
C'est un cas d'école,
Et on voit au-delà du fait de dire que la famille ne les a pas aidés, on voit aussi qu'il s'agissait pour les autres affaires dans la famille du fonctionnement ordinaire de la justice, puisque malgré la parole de l'enfant, l'enfant n'a pas été cru, il a été accusé de mentir par le reste de la famille, parce que le caractère patriarcal de la justice, il vient pas nulle part, il vient aussi du fait que la société est patriarcale et qu'on ne croit pas la parole de l'enfant, la justice qui ne croit pas forcément la parole des enfants, sujet, c'est la société qui ne croit pas la parole des enfants.
Mais hors sujet. Jonas Sadat, bonsoir. Pourquoi vous dites hors sujet?
Parce que vous êtes avocat aussi.
Mais parce qu'en fait, je souscrivais à vos propos jusqu'à ce que vous utilisiez un terme politicien et très.
C'est un terme d'analyse de sciences sociales, c'est-à-dire patriarcale.
Non, très militant patriarcal. Je rappelle quand même que 70% des magistrats sont des femmes.
Ça n'a aucun rapport.
Bah si, vous avez dit la justice est patriarcale.
Oui, la justice peut être patriarcale même si les magistrats sont des femmes.
D'accord.
C'est pas parce que les femmes sont l'institution en elle-même, elle reproduit l'institution en elle-même, la justice, elle va reproduire des mécanismes que l'on trouve dans la société.
Donc en fait, ça veut dire quoi? Non mais attendez, juste ça veut dire quoi patriarcale?
Si dans la loi, par exemple, regardez, très bien, vous aviez des les magistrats sont des femmes. Mais lorsque 70%,
on va vous interrompre parce que le maire
il y a le maire de Florence.
Priorité au direct.
Je demande à tous de respecter ce que va vivre la famille de Liana et ses proches demain. Enterrer une petite fille de 11 ans, pas un symbole, pas une lutte, une enfant. À ce titre, restons dignes, humbles et respectueux. Tous ensemble, demain, en accompagnant simplement, en tant que citoyens, les parents de Liana dans le moment le plus difficile de leur vie. Nous le ferons ensemble, à l'image de notre territoire et du soutien venu de partout en France, avec dignité et simplicité. Vous retrouverez l'ensemble des souhaits de la famille de Liana dans le communiqué que nous avons fait ce matin avec la mairie de Florence. Je vous remercie.
Je suis désolée, il n'y aura pas de réponse aux questions. Merci.
La mise au point du maire qui demande le respect et la dignité alors que les obsèques auront lieu demain dans la plus stricte intimité.
Oui, absolument.
L'hôtel de Liana, bien sûr. Sans
présence médiatique, sans présence d'inconnus, la plus stricte intimité familiale, ce sont effectivement les consignes et les demandes de la famille de Liana.
Revenons à notre discussion maintenant.
Vous vouliez répondre à Jonas Sadat qui ne comprend pas pourquoi vous utilisez le terme de patriarcat dans l'affaire en question.
J'aimerais dire à monsieur que lorsque 70% des plaintes pour viol sur mineurs ne font l'objet d'aucun acte d'enquête, c'est-à-dire le suspect n'est même pas convoqué, soit interrogé, soit en audition libre, il n'y a aucun acte de prélèvement pour vérifier si des faits auraient été commis, c'est bien que l'institution judiciaire ne s'est pas mise à jour avec une réalité qui est celle de la domination masculine et du fait que Madame. Les hommes, à 90%, lorsque des enfants sont agressés, c'est par des hommes et que cette justice n'est pas féministe. Et ça n'a rien à voir Madame. Avec le fait que
même
de
si
nombreuses
elle est très
femmes
féminisée.
Soient magistrats.
Madame, excusez-moi, je vous fais de l'idéologie, je le comprends, c'est dans votre rôle. Moi, à côté du fait d'être porte-parole des Républicains, je suis avocat et il se trouve que j'ai accompagné des femmes qui ont été victimes de viols. L'institution en elle-même, n'est ni patriarcale, ni antiféministe. La réalité, c'est que cette institution, elle doit être réformée et qu'elle a un déficit structurel, non pas de moyens, mais de personnel. Et je pensais que
mais
des gens...
Mais le personnel, c'est directement lié aux moyens. Le recrutement, c'est de l'argent, quand même.
Oui, j'allais y venir. Pas forcément. Depuis 2017, il y a eu une augmentation de 60% du budget de la justice en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, on a ajouté des couches et des couches de bureaucratie et qu'on a de moins en moins de personnes qui sont en charge de faire des poursuites que vous regrettez. Je donne juste un exemple et un chiffre. On a 4 fois moins de procureurs que dans le reste de l'Europe. Oui. D'accord ? On a un nombre aujourd'hui pour que nous...
Mais où va l'argent, là ?
Alors, dans...
La moitié du budget de la justice, c'est l'administration pénitentiaire. Bon, okay. Sur 11 milliards, 5,5 milliards
sur la retraite des fonctionnaires.
Et ne vont pas aux tribunaux ou à la prise
voilà,
en charge
donc,
des mineurs.
Vous voyez qu'on est d'accord et qu'il n'y a rien de patriarcal là-dedans. Deuxièmement, non, madame.
Donc il y a un problème de répartition des moyens.
Il y a un problème de répartition des moyens. Et donc, comme il y a un problème de répartition des moyens, les moyens sont mal fléchés. Et donc, lorsqu'il y a un embouteillage dans la gare, le triage est mal fait.
Oui, mais
donc,
pourquoi
on
priorise pas
prioriser. Alors voilà, là, c'est une réalité. Pourquoi on ne priorise pas? C'est des circulaires qui sont prises par le ministre de la Justice. En l'occurrence, c'était Darmanin qui a pris des circulaires. Et qui ne sont pas suivis. Et donc la question que nous posons...
Sauf qu'il y a beaucoup de circulaires, il y a beaucoup de priorités.
Il y a eu 110 circulaires.
Et donc la question que nous posons, ce n'est pas une question de savoir si tout ça est patriarcal, sexiste ou féministe. La question, c'est de savoir tout simplement pourquoi des magistrats qui reçoivent, en tout cas des procureurs, des circulaires, ne les respectent pas. Et pourquoi, s'il y a eu une faute, elle doit être sanctionnée. Parce que c'est bien beau de faire de la théorie, mais l'idée, c'est de savoir comment on évite qu'il n'y ait plus de drame de Liana sans faire de l'idéologie, en apportant des réponses.
Et quand le Premier ministre dit, par exemple, faudra justifier, je vais prendre un décret, faudra justifier un non-lieu pour les cas, effectivement, de non-lieu pour les crimes sexuels supposés, les classements sans suite, est-ce que ça va dans le bon sens? Ça coûte pas grand-chose, mais c'est une mesure d'efficacité.
Je réponds d'abord à monsieur qui reprend les éléments de langage du gouvernement et de monsieur Darmanin, c'est-à-dire de faire peser la responsabilité les individus qui n'auraient pas suivi des circulaires, au lieu de voir la responsabilité politique.
Il peut y avoir les deux. Hein.
Monsieur Darmanin a pris 114 circulaires et dépêches en 2 ans, et dans les circulaires qu'il a cités, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants était une priorité parmi des dizaines de priorités que les magistrats doivent suivre.
Mais madame, c'était ensuite, la priorité. Quand c'était Christiane Taubira, c'était la priorité de la garde des Sceaux à l'époque. Et pour autant, on avait autant de non-lieux. Donc je vous dis que la question n'est
ensuite,
pas une question.
Ensuite, M. Darmanin non, je a sais, caché un certain non, nombre de rapports,
madame,
dont un rapport de 2023
pas au niveau,
qui montrait déjà
c'est
les défaillances et l'absence alors, de politique correcte pour lutter contre les violences débat, sexuelles.
Vous citez Gérald Darmanin. Il est quand même aujourd'hui ciblé par l'opposition. Hier, Olivier Faure a demandé sa démission et il a d'ailleurs dit qu'il avait changé d'avis là-dessus. Et Jordan Bardella, aujourd'hui même, estime qu'il aurait dû présenter sa démission.
Par honneur, effectivement,
Jean-Luc Mélenchon, on va écouter les trois personnalités.
Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français, parce qu'il est en charge de l'institution judiciaire et que cette institution a manifestement failli, peut-être que l'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République
sa démission. Parce qu'il défend aujourd'hui très mal son dossier et parce qu'aujourd'hui, il donne le sentiment de ne pas avoir compris ce qu'il se passait, d'être dans un déni qui est, lui, un déni systématique pour un problème qui est, lui, systémique. Oui, Gérald Darmanin devrait démissionner.
Il y a des pays où, quand quelque chose ne va pas bien ou qu'il y a un scandale, le ministre démissionne. Mais regardons le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est toute une politique. Il faut prendre le problème dans sa globalité. La question de la démission intervient là-dedans, si ça change quelque chose. Si c'est pour continuer à faire pareil, écoutez, pour ne rien faire, gardons les mêmes. C'est moins coûteux.
Gérald Darmanin, là.
Lui, pour l'instant, il n'est pas question de démissionner. Il le répète, son entourage également. Il considère que...
Il est soutenu par Emmanuel Macron, par Sébastien Lecornu.
Absolument. Il considère effectivement que le travail a été fait. Comme on le disait, que sa responsabilité, c'était de prendre ses circulaires. Et dans un second temps, c'était de présenter ses excuses au nom de l'institution et d'engager tout ce calendrier, vous avez vu, qui va se dérouler au mois de juillet. La convocation des procureurs, on l'a vu il y a quelques jours. Il considère que c'était ça.
Les 60 000 plaintes examinées.
Absolument. À cribler, a dit hier le Premier ministre, cribler. Qui a précisé qu'elles ne seraient pas toutes examinées, mais qu'elles seraient criblées, c'est-à-dire on essaierait de voir effectivement lesquelles doivent être le plus rapidement possible examinées. Lui ne veut pas lâcher du tout, il considère que ce serait quitter le navire beaucoup trop tôt, et donc là-dessus il ne veut pas lâcher, il est soutenu par le Premier ministre, par le Président de la République. On voit que le Premier ministre a endossé un rôle qui est lui de gérer à plus long terme cette crise de la justice. À Gérald Darmanin, la gestion de l'affaire Liana, les sanctions éventuelles. À Sébastien Lecornu, les propositions pour améliorer la question de la justice, que le Premier ministre l'a dit, à ses yeux, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et on le disait, il y a ce décret qu'il a promis pour que désormais soient justifiées les enquêtes, effectivement, qui seront abandonnés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Et ça, il veut que ce soit désormais justifié. Il y a aussi le fait que les enquêteurs aient désormais 3 mois pour faire les premiers éléments d'enquête. Et vous savez, il y a aussi cette question de dire, désormais, il faut que les criminels sexuels qui récidivent soient passibles, puissent être passibles, eh bien, de perpétuité. Et donc, on voit que lui s'engage sur une réforme à plus long terme de la justice.
Si Darmanin partait, ça changerait quoi, en fait ?
Bien, s'il partait, il y aurait au moins un signal que les victimes de violences sexuelles sont respectées et que c'est lui le principal responsable, avec d'autres, hein, au sein du gouvernement et ses prédécesseurs, de la situation. Mais je reviens sur les propositions qui ont été faites par Monsieur Lecornu.
Parce le décret pour le classement sans suite.
L'idée du décret, c'est, moi, j'y suis favorable, c'est une recommandation de la Civise. Parmi les 82 recommandations, dont 75% avaient été enterrées par le gouvernement, c'est une recommandation qui date d'il y a 4 ans. La perpétuité, on sait que plus de répression pénale n'a jamais conduit à moins de violences sexuelles. Ce qui conduit à de la dissuasion, c'est d'abord la prévention, c'est-à-dire des moyens pour l'EVAR, c'est-à-dire l'éducation à la vie sexuelle dès le plus jeune âge. C'est ça qui conduit les enfants à apprendre ce que c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, à apprendre ce que c'est le consentement, à apprendre aux petits garçons que le corps des petites filles n'est pas à leur disposition.
Et la castration,
quelle contradiction. Ce qui compte, c'est que les agresseurs aient la certitude d'être pris. Et là, cela dépend de moyens pour les enquêteurs. Donc nous réclamons du budget, c'est-à-dire plus d'enquêteurs, d'officiers de police judiciaire spécialisés sur les violences sexuelles. La perpétuité, ça ne changera rien. La répression pénale, ça n'a jamais rien changé.
Il y a une autre proposition qui émane de Bruno Retailleau, c'est la castration chimique.
Tout à fait.
Ça existe déjà.
Dans plein de pays.
Dans plein de pays, même en France. Hein.
Exactement.
Avec il faut que la personne l'accepte aussi. Hein.
Exactement. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que...
Mais Bruno Retailleau va plus loin. Même s'il n'y a pas de volontariat, il n'est pas la castration chimique, c'est ça ?
En fait, la question, c'est de voir qu'est-ce qui marche dans les autres pays. Et on ne peut pas dire, matin, midi et soir sur les plateaux télé, que c'est gravissime. On ne peut pas faire des manifestations sans prendre des mesures. Moi, je trouve que c'est une contradiction qui est assez incroyable de dire qu'il y a un système patriarcal, systémique, violent, qui broie les gens, et d'un autre côté, ne pas avoir un équilibre de la force qui fait en sorte qu'on empêche ces personnes-là de broyer. Quand j'entends des gens qui disent « on n'est pas pour la castration chimique » ou « on n'est pas pour les peines planchers pour les récidivistes multidélinquants parce qu'il faut favoriser la prévention », mais quand la personne est à son 10e fait, quand, comme c'est évoqué dans vos documentaires, la personne a violé ou a agressé sexuellement la moitié de sa famille et la moitié des copines de ses filles, on va lui faire de la prévention ? Vous allez lui expliquer, madame, par exemple, que c'est pas bien ? Vous croyez qu'il n'est pas au courant que c'est pas bien ? Lorsque déjà, il a été convoqué 3 fois par les policiers et qu'on lui a expliqué que ce n'était pas bien ? Bien sûr qu'il est au courant que c'était pas bien. À un moment, il faut accepter, madame, que le mal, notamment en la matière, ça existe, et qu'à un moment, on doit combattre ce mal-là par des mesures concrètes, pas par des colloques, pas par des manifs, mais par des textes réglementaires et l'autorité de la loi.
Un mot pour dire que Jérôme Barella, il n'est pas soupçonné à ce stade de quelconque fait que ce soit sur des membres de sa famille. Et d'ailleurs, même s'il a été mis en cause à plusieurs reprises, il a effectivement un casier jusqu'ici qui
c'est
est vierge.
C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Mais pourquoi vous ne voulez pas plus de fermeté ?
L'intervention de monsieur illustre une méconnaissance totale du phénomène de violence sexuelle.
Mais madame,
le viol,
j'ai,
ce n'est pas
avocat
le viol,
de
le viol, ce n'est pas, le viol, ce n'est pas des pulsions sexuelles. Le viol, c'est la volonté de dominer le corps d'un individu et de le dominer et de le détruire. C'est ça, un viol. La castration chimique, moi, je n'ai jamais vu une seule pancarte aux manifestations féministes, notamment les manifestations de lundi avec cette réclamation.
Parce que vous n'avez pas vu manifestations féministes.
Regardez ce que réclament les collectifs féministes, les collectifs enfantistes, par exemple, les 3 milliards pour lutter contre les violences sexuelles, pour que les unités médico-judiciaires soient renforcées, pour qu'il y ait 2000 enquêteurs en plus sur ce type d'infraction.
On peut faire les deux.
Pour qu'il y ait davantage de magistrats spécialisés. Oui. Nous réclamons 600 magistrats spécialisés sur les violences sexuelles. Nous réclamons aussi pour les violences faites aux femmes et aux enfants en général.
Oui, mais c'est Gérald Darmanin qui a dit que finalement, quand on est pédocriminel, c'est incurable. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
C'est-à-dire
que le danger est toujours là.
Le discours de monsieur est caricatural. Au bout de 10 viols, la personne a déjà pris perpétuité. Et je rappelle que seulement 1% des viols sont condamnés. Donc ça veut dire que 99% des autres.
Donc c'est
contradictoire. Et je parlais de prévention dès le plus jeune âge. Les VARS, on parle d'une loi qui date de 2001.
C'est la prévention sur un pédocriminel ?
Non, je ne parle pas de la. Monsieur.
Non, mais je parle de ceux qui passent à l'acte.
Les pédocriminels, monsieur, ils doivent être condamnés. Il y a une justice pour ça. Il y a un code pénal. Le viol est déjà un crime passible de 15 ans de réclusion.
Ils ne le sont pas suffisamment.
Et ensuite, mais s'ils ne le sont pas suffisamment, c'est parce que les enquêtes sont défaillantes. D'accord. Parce qu'il y a un mépris pour le corps des femmes et des enfants. Ce n'est pas parce que le code pénal est vide et que les peines n'existent pas.
Ça ne sert à rien de le renforcer. La loi est là, il faut l'appliquer.
Merci. Mais écoutez, les associations féministes, est-ce qu'elles ont réclamé depuis 2 semaines
C'est pas les seuls à avoir un avis sur la question.
Un dernier mot, s'il vous plaît.
Si vous pensez qu'il faut écouter les associations féministes, c'est peut-être votre position. Moi, je demande juste qu'on écoute les familles des victimes, qui sont pas d'accord avec vous.
Mais la famille de Liana, c'est intéressant. Chimique. Elle a demandé plus de moyens pour la justice, justement.
Et il y en a certains qui demandent la castration chimique, il y en a certains qui demandent aussi la
responsabilité. Oui, monsieur Retailleau, qui n'est pas ni une victime de violence sexuelle, ni une association féministe.
Vous non plus. Et qui demande la responsabilité.
Moi, je suis militant féministe et vous ne connaissez pas ma vie, monsieur.
Et moi, madame, j'ai été avocat de certaines victimes de violence sexuelle et je peux vous assurer qu'elles auraient bien aimé que les personnes qui ont été condamnées parce qu'on a fait un travail aient été condamnées plusieurs fois parce qu'ils étaient récidivistes. Et vous laissez des gens comme ça dans la nature, c'est grave.
Les victimes auraient peut-être mieux fait de choisir un autre avocat.
Suite de l'émission, nous reviendrons sur le cas de Patrick.
Oh bah dis donc, elles vont être contentes. Vous avez entendu ça quand même, hein.
Oui. En même temps, vous l'attaquez aussi.
Vous
parlez des associations féministes.
Vous parlez des associations féministes. Vous ne connaissez rien aux violences sexuelles, au mécanisme de l'inceste.
Les associations féministes n'étaient pas à nos côtés lorsque nous avons fait condamner M. Tariq Ramadan à 18 ans de réclusion criminelle. Pas une association féministe n'était là, donc je pense que j'ai de leçons à recevoir de personne.
Et vous voyez, la justice fonctionne alors.